Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Farin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, Emmanuel Macron hausse le ton alors que commence une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites.
Et il s'en prend à quelques heures de la présentation du texte en Conseil des ministres. Il s'en prend à ceux qui, par leurs mots, leurs slogans ou leurs actions, alimentent la violence. Écoutez, c'était il y a quelques minutes au micro de nos confrères de Radio J. Il s'exprimait dans son avion de retour de Jérusalem.
Aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature ! La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez.
Essayez la dictature, dit Emmanuel Macron, micro de Radio J. Je me tourne vers vous, Olivier Bost. Le ton est donné, alors donc que s'ouvre une nouvelle journée d'action, de défilé, de manifestation.
Oui. En fait, le chef de l'État vise, sans les nommer, les paroles tenues par l'extrême gauche dans les rangs de la France insoumise, qui ne cesse de dire qu'Emmanuel Macron n'a été élu que parce qu'il était face à Marine Le Pen, qu'il n'a pas de légitimité. Ces discours sont aussi tenus dans les rangs des syndicats les plus radicaux, comme la CGT. On entend aussi parler de dictature chez les Gilets jaunes. Mais il n'y a pas que ça. Emmanuel Macron répond aussi indirectement à une autre critique qui s'installe. Une critique bien plus problématique pour lui, la perte d'autorité de l'État, la défiance envers la police. Le chef de l'État est accusé, notamment par les Républicains, de céder à la violence. Tout ça serait le résultat de ses erreurs politiques. Il y avait donc urgence pour Emmanuel Macron de ne pas laisser s'installer cette critique. C'est une façon de ramener à lui les partisans de l'ordre, c'est-à-dire la très grande majorité des Français.
Merci Olivier Bost. Le cadre est donc posé, on l'a compris, le bras de fer continue.
Il va y avoir du monde en grève et dans la rue. L'état d'esprit est le même. Moi, tant qu'on ne me démontre pas que j'ai tort, que l'opinion publique a tort, ça veut dire qu'on a peut-être raison.
Vous avez reconnu Philippe Martinez, le leader de la CGT avec Frank Hanson. Et alors que la réforme sera présentée dans le salon Murat, à l'Élysée, les manifestants se rassembleront au même moment. Place de la République, départ à 11h, direction la place de la Concorde, un jet de pierre du palais présidentiel, un choix inhabituel. Arrivée prévue à 19h, 8h de défilé, là aussi c'est rarissime. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
On n'en a pas fini avec cette réforme élaborée depuis 2 ans. En fait, c'est maintenant que tout commence.
Oui, on arrive sur le terrain politique. Le projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale dans la foulée du Conseil des ministres. L'instauration d'un régime universel, le calcul de la pension de retraite en fonction de points accumulés tout au long de la carrière, l'âge d'équilibre assorti d'un système de bonus-malus, les effets de toutes ces mesures sont évalués dans une étude d'impact d'un millier de pages que les députés vont regarder de près. Toutes les conséquences pour les salariés, les fonctionnaires, les mères de famille. Les députés vont auditionner les ministres concernés la semaine prochaine, examiner des amendements commission à partir du 3 février et le débat en séance publique à l'Assemblée commencera le 17 février. Vote du texte prévu en mars avant les municipales. Les sénateurs prendront ensuite le relais. En parallèle de tout ça, l'aspect budgétaire de cette réforme sera discuté par les partenaires sociaux à partir de la semaine prochaine avec le lancement de la conférence de financement que la CFDT appelait de ses voeux. Les négociations devront aboutir d'ici à la fin avril au moment où le projet de loi reviendra devant les députés pour un deuxième examen.
Merci beaucoup. Tout cela donc sera donc voter avant l'été. Merci Marie Guerrier.
Les transports sont à nouveau perturbés aujourd'hui.
Oui, hein. Les cheminots remettent ça. 7 TER et Intercités sur 10 en circulation. Trafic très compliqué dans le métro parisien, mis à part les lignes 1, 7 bis, 14 et Orlival. Vous êtes gare Saint-Lazare, Arnaud Touche. C'est calme pour l'instant.
Oui, absolument. Il n'y a pas énormément de monde sur les quais, contrairement à ce qu'on a pu constater il y a encore quelques semaines. Beaucoup d'usagers ont anticipé cette nouvelle journée de grève, comme Anissa qui travaille à la gare Saint-Lazare et qui est arrivée en RER ce matin.
Je m'attendais à pire.
Pourquoi ?
Parce que vu les grèves qu'on a eues pendant les fêtes de Noël, je me suis dit que ça allait recommencer aujourd'hui, comme c'est une grève générale. Et effectivement, j'ai eu peur, donc je suis partie un peu plus tôt. Du coup, ça allait. Donc je suis assez contente. Bon, on verra pour ce soir maintenant, on va voir.
Et la ligne 14 du métro qui est automatique n'est pas non plus saturée ce matin. Et en surface, c'est un peu la même chose qu'en sous-sol. Les bus ne sont pas pleins. 3 bus sur 4 en moyenne circulent aujourd'hui dans la capitale.
Merci beaucoup Arnaud Touche en direct de la gare Saint-Lazare. Grosse perturbation en revanche à Bordeaux dans les transports en commun. Plusieurs dépôts de bus et de trams sont bloqués en ce moment par des manifestants. Et puis du côté des écoles, le SNUIPPFSU annonce pour aujourd'hui 40% de grévistes en maternelle et en primaire au plan national, 50% à Paris.
Marie-Garrier, vouliez nous donner le programme il y a quelques instants. À 8h20, notre invité sur RTL, le rapporteur du projet de loi sur la réforme des retraites, Olivier Véran, député La République En Marche de l'Isère. Il sera avec nous dans ce studio.
Dans l'actualité également de ce vendredi, nouvelle audition de l'ex-femme de Michel Fourniret dans l'affaire Estelle Mouzin. Monique Olivier avait démenti il y a quelques mois l'alibi du tueur en série qui a toujours affirmé qu'il était chez lui en Belgique le soir de la disparition de la petite fille en janvier 2003 en Seine-et-Marne.
RTL Matin, 8h05.
On part aux États-Unis avec cette grande première aujourd'hui à Washington.
Dans la ville où se tient en ce moment son procès en destitution, Donald Trump va défiler tout à l'heure contre le droit à l'avortement. Tout un symbole à 10 mois de la présidentielle. Symbolique et surtout inédit, Philippe Corbet.
Non, jamais aucun président, même ceux qui s'opposaient à l'avortement, n'avaient osé participer à cette marche controversée qui se tient ici chaque année depuis que ce droit a été accordé par la Cour suprême en 1973. 100 000 personnes sont attendues. Donald Trump sait que cette question a été déterminante pour son élection. C'est grâce à ça qu'il a pu fédérer les conservateurs dubitatifs, notamment les chrétiens évangéliques, car il a longtemps soutenu le droit des femmes à disposer de leur corps, mais il leur a promis de choisir des juges qui pourraient remettre en cause le droit à l'avortement. Il a déjà pu faire installer 2 juges à la Cour suprême, qui va examiner prochainement des recours, car des États ont durci leur législation depuis son élection. En plein procès en destitution, il veut rappeler à sa base que c'est aussi cette question qui se jouera dans les urnes en novembre.
Merci Philippe Corbet, envoyé spécial de RTL à Washington. En Chine, ce sont 30 millions d'habitants qui sont désormais bloqués dans le centre du pays par les mesures anti-épidémie. Un deuxième mort a été identifié loin de l'épicentre de Wuhan, à près de 2000 km de là. À Shanghai, le parc Disneyland ferme ses portes par mesure de précaution et jusqu'à nouvel ordre. La quasi-totalité des provinces sont touchées désormais par l'épidémie du coronavirus.
Dans un court instant, 35 millions d'euros, une belle maison de campagne vendue en plein Paris.
La fameuse maison, c'est là. Je vais m'évanouir, c'est pas possible.
Il y a un jardin entre les deux, j'imagine, en plus.
900 mètres carrés.
Et sachez que vous pouvez encore surenchérir. A tout de suite.
RTL, 8h07.
Bien. RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Alors c'est une belle maison hein, de 600 mètres carrés, vendue pour l'instant aux enchères 35 millions d'euros.
Et vous faites bien de dire pour l'instant, car on peut encore surenchérir, vous avez 10 jours. C'est une belle mais vieille propriété qui a longtemps attisé la curiosité des passants en plein Paris, près des Invalides. Ça nous fait quand même 22 000 euros le mètre carré. Vincent Serrano est allé faire un tour du propriétaire.
Oui, un montant plus que surprenant pour les habitants du quartier qui avaient perdu l'habitude de lever la tête en passant devant cette maison aux murs décrépits, fenêtres condamnées, portes verrouillées. Mais à ce prix-là, wow. Laure, vous avez un nouveau voisin.
Non mais du coup, vous savez qui c'est ou pas?
Un Français.
Vu l'état de la façade, c'est sûr qu'il va y avoir un peu de bruit pour les travaux. Mais bon, c'est bien que ça soit plus dans cet état-là. Après, on verra bien jusqu'où ça monte. Enfin, voilà.
Ton prénom, c'est quoi?
Gaspard.
T'auras des nouveaux voisins?
Bah, j'aimerais bien les connaître, ce serait cool. Moi, j'aimerais bien garder l'espace vert.
Tu le diras au nouveau propriétaire ?
Ouais.
Voilà, Gaspard qui s'inquiète pour le jardin. En face, sur le trottoir, Daniel et sa sœur Agnès admirent eux aussi. C'est ça, cette maison à 35 millions d'euros.
La fameuse maison, c'est là. Je vais m'évanouir, c'est pas possible.
Il y a un jardin entre les deux, j'imagine, en plus.
900 mètres carrés.
Ma chambre, elle sera où ?
Dans la maison derrière. Là.
Non, moi, je préfère être sur la rue parce que j'ai un petit côté concierge. J'aimerais bien y habiter. Comme je passe devant à peu près tous les jours, je verrai l'évolution des travaux et je m'en inquiéterai même.
Et il y aura de quoi faire puisque le montant des travaux est estimé pour l'instant à 10 millions d'euros.
Ouais, ça fait quand même déjà 45 millions
d'euros. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Reportage signé Vincent Serrano.
RTL 8h10.
Du nouveau dans l'affaire du Dieselgate.
Oui, 4 ans et demi après les révélations des moteurs truqués de Volkswagen, première action collective en France. Les propriétaires de diesel sont appelés à réclamer des indemnités aux constructeurs allemands qui avaient reconnu avoir triché sur la réalité du niveau de pollution de ces moteurs.
Mais au fait, est-ce que Volkswagen a payé ce scandale plus de 4 ans après? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Christophe Bourou, bonjour.
Bonjour.
Le Dieselgate a-t-il nui aux finances du géant allemand ?
Oh oui, puisque le Dieselgate a coûté déjà plus de 30 milliards d'euros en frais juridiques, amende et dédommagement à Volkswagen. Et c'est aux États-Unis, là où le scandale a éclaté, que l'addition est la plus salée. 25 milliards de dollars. D'ailleurs, le constructeur n'en finit pas de payer. Cette semaine, c'est au Canada qu'un accord a été trouvé. Montant de l'ardoise, 135 millions d'euros. Alors, en Europe, on attend toujours. Pourtant, il y a 8,5 millions de voitures supposées truquées. Même si ça bouge, comme en Allemagne, où en plein procès, le groupe vient d'entamer des négociations avec les plaignants. Et
puis, une action collective va être menée aux Pays-Bas, en Belgique et bientôt en France. La France où 1 million de voitures sont concernées par cette affaire.
Donc, Volkswagen a payé plein pot, hein, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que, par contre, les ventes ont baissé?
Alors non, le trou d'air a été financier, mais les ventes se sont toujours bien portées. Elles ont même augmenté. Le groupe allemand enchaîne les records 2017, 2018, 2019. Près de 11 millions de véhicules vendus l'an dernier, avec une progression de 10% en France. Et au final, numéro 1 des ventes dans le monde avec Toyota et devant Renault-Nissan.
La question de 8h avec Christophe Bourg.
En sport, l'événement ce soir, c'est la NBA à Paris, à Bercy. Premier match du genre dans la capitale. Les Milwaukee Bucks contre les Charlotte Hornets. Il fallait payer au moins 315 euros la place. En football, 21e journée de Ligue 1. Nice reçoit Rennes. Et puis, séisme sportif en Australie avec l'élimination de Serena Williams cette nuit. Élimination aussi de l'ex numéro 1 mondial, la Danoise Caroline Wozniacki, battue par la Tunisienne Hans Jaber, 78e mondial en 3-7, 7-5, 3-6, 7-5. Caroline Wozniacki annonce qu'elle met fin à sa carrière à 29 ans.
L'histoire du jour, je vous prie.
Aux États-Unis, dans le Michigan, un homme qui venait d'acheter un canapé d'occasion a eu la surprise d'y découvrir 43 000 dollars en espèces. Plus de 39 000 euros. Les billets étaient dissimulés dans un coussin. Ils avaient été placés là par le propriétaire précédent, décédé depuis quelques années. Alors qu'a-t-il fait cet acheteur ? Eh bien, il a rendu l'argent au magasin. Moi, j'aurais plutôt rendu le vieux canapé.
Enfin, chacun, nous sommes d'accord sur l'analyse. Et c'était donc le journal de Jérôme Florin. À 8h35, ne manquez pas notre rendez-vous RTL. Vous êtes comme ça, nous serons dans les starting blocks. À 2 jours du formidable Grand Prix d'Amérique, nous allons vous faire vivre les coulisses, les préparatifs de cette 100e édition de la course hippique.
Ça a été une histoire de dingue avec cette jument. Ça s'est enchaîné super vite. Elle a couru le Prix d'Amérique l'année dernière en se qualifiant à la dernière préparatoire. Après, elle a fait une campagne européenne qui a été extraordinaire aussi. En ayant couru, gagné en Suède, en étant deuxième en Norvège, en ayant couru le championnat du monde à New York. Donc, elle m'a fait voyager toute l'année. Et puis, dimanche, j'ai eu la consécration un petit peu de toute cette année qu'elle a effectuée, qui est magnifique.
Rendez-vous à 8h35 avec Jacques Serret pour RTL, vous êtes comme ça.